Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous et merci d'être encore au rendez-vous de cette émission. Si vous écoutez régulièrement Métropolez-vous, vous aurez peut-être noté lors de certains numéros où il était question d'aménagement que les métropoles toulousaines possèdent des territoires ruraux et même des espaces agricoles. Il y a donc une agriculture et des agriculteurs métropolitains. On les imagine bien sûr dans les communes les plus périphériques de Toulouse Métropole, là où l'espace urbain est le moins développé, là où prés et terres cultivables sont encore bien visibles. Et pourtant, il existe aussi dans l'espace urbain métropolitain une forme d'agriculture qui se développe et dont on entend parler de plus en plus. On emploie maintenant l'expression « agriculture urbaine », concept qui aurait peut-être prêté à sourire ou à plaisanter il y a encore quelques années. On aurait cependant tort d'en rire, tout ça est très sérieux et il faut vraiment s'y intéresser. C'est ce que nous allons faire au cours de cette émission consacrée à la question « L'agriculture urbaine, un concept d'avenir pour la métropole toulousaine ». Et il se trouve qu'un certain nombre d'associations et de collectifs de citoyens passionnés par le sujet et toutes ses implications, qu'elles soient alimentaires ou environnementales, œuvrent dans le domaine de l'agriculture urbaine. Nous avons donc convié deux d'entre eux pour en débattre à Métropolez-vous. Ils s'appellent Christian Ortega et Olivier Bory. L'un est membre de l'association Green My City, l'autre de l'association du réseau Agriville. Alors à part ceux de nos auditeurs qui s'intéressent de près à ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, je pense que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas ni Green My City, ni Agriville. Alors je vais vous demander pour commencer à l'un et à l'autre de présenter ces deux associations. On va commencer par vous Christian Ortega pour l'association Green My City. Vous êtes à la base je crois ingénieur océanographe et puis vous êtes impliqué dans cette association. Alors quels sont les buts, les raisons qui ont présidé à sa création?
En fait, à partir de ma formation d'ingénieur océanographe, j'ai eu la chance de voir se développer tout le message sur le changement climatique. Et j'ai eu envie de passer de l'observation du changement climatique à l'action. Et c'est à partir de là qu'avec d'autres, et nous venons certains d'un mouvement Alternativa, on a créé cette association dont le but est principalement de sensibiliser les citoyens, mais aussi les élus à la question du changement climatique et sensibiliser juste à l'oral, comme ça suffit pas. Il faut des actions concrètes et l'action concrète qu'on a choisie pour ça, c'est de développer le vert en ville et le vert agricole. Et sur une idée assez simple, on souhaite développer des oasis urbaines qui sont à la fois des îlots de verdure et de fraîcheur pour lutter contre les îlots de chaleur en ville, des espaces nourriciers et des lieux de partage et de convivialité. Donc c'est autour de ce concept-là qu'on a lancé l'association et qu'on a lancé aussi avec d'autres les 48 heures de l'agriculture urbaine.
Voilà, alors on développera tout à l'heure tout ce qui se cache derrière cette présentation. Vous, Olivier Bory, vous êtes enseignant-chercheur. Alors le domaine dans lequel vous intervenez, je vais vous laisser le préciser vous-même.
Oui, alors donc moi je suis enseignant-chercheur alors à l'École nationale supérieure de la formation et de l'enseignement agricole, enseignant-chercheur en aménagement de l'espace, donc membre effectivement de l'association Réseau Agriville, qui a été portée à la base par trois enseignants-chercheurs, deux enseignants-chercheuses avec moi, avec l'idée, puisqu'on est aussi très impliqué dans la formation et dans l'activité recherche autour de la question de l'agriculture en ville, en fait, de monter en fait une plateforme de recherche mais aussi pédagogique de manière à pouvoir organiser en fait le transfert entre la connaissance qu'on produit en tant que chercheur et les questions que l'on se pose mais aussi la formation. Et donc du coup on invite dans cette association et autour de ce réseau tout un tas d'acteurs complètement pluriels, que ce soit des élus, que ce soit des étudiants, que ce soit des membres d'associations, etc., à venir et participer à la construction en fait de cette connaissance et à venir amender par des documents, des interviews, de manière à pouvoir dire organiser les discussions, les échanges autour de quelque chose quand même qui nous intéresse particulièrement.
L'agriculture urbaine, donc beaucoup d'initiatives, on va en parler dans quelques instants avec vous deux. Et l'agriculture urbaine, en est-il question dans l'actualité métropolitaine? On va le savoir dans quelques instants, grâce à Corinne Saint-Félix et son habituel flash d'information. Métropolez-vous, l'actu. « Une bonne nouvelle pour commencer, l'Université de Toulouse est de nouveau en course pour obtenir le label IDEX.
Oui, l'Université fédérale a été autorisée à concourir à nouveau devant un jury international pour tenter d'obtenir le label. Lancé en 2011, le projet IDEX de Toulouse avait été stoppé en 2016 car jugé insuffisant. Le dossier toulousain est donc autorisé à repasser devant un nouveau jury international et cette réponse positive du commissariat général à l'investissement récompense le travail collectif relancé par les trois universités et les grandes écoles toulousaines. L'université va maintenant devoir consolider son projet pendant les prochains mois et fédérer l'ensemble des acteurs, à commencer par les étudiants. En cela, les responsables universitaires toulousains ont une responsabilité historique pour un enjeu d'avenir d'une importance capitale, a déclaré Jean-Luc Moudin, président de Toulouse Métropole.
Et une autre bonne nouvelle, la création de plus d'une centaine d'emplois par l'entreprise Continental à Toulouse.
L'équipementier automobile Continental a annoncé la création à Toulouse d'une filiale spécialisée dans les véhicules connectés, avec 150 emplois créés d'ici la fin 2017 et 400 d'ici 2021. Une subvention de 4 millions d'euros d'aide à cette implantation et une avance remboursable d'1 million d'euros seront proposées au prochain conseil de la métropole. La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, a annoncé de son côté qu'elle proposerait au vote des élus régionaux lors de la prochaine commission permanente une enveloppe de 5 millions d'euros afin d'accompagner ce projet. C'est la troisième implantation réussie sur le territoire de Toulouse Métropole dans le domaine du développement automobile et de la mobilité, avec par exemple aussi le siège mondial d'Airbus, le centre mondial du métro automatique Val de Siemens Mobility et le projet Hyperloop Transportation Technologies. Toulouse est donc le berceau européen des systèmes embarqués avec plus de 250 entreprises.
Ici, dans la métropole toulousaine, nous sommes au cœur du monde de l'Ovalie, chacun sait cela, toute prétention mise à part bien sûr.
Oui, et en rugby, la France est candidate pour l'organisation de la Coupe du Monde, ça sera du 15 septembre au 4 novembre 2023. Et si la France remporte cette compétition, la Fédération Française de Rugby a d'ores et déjà annoncé que Toulouse faisait partie, grâce au stadium, des villes hautes sélectionnées pour accueillir la Coupe du Monde de rugby 2023. 12 villes au total ont été choisies pour porter ce projet et Montpellier a aussi été sélectionné. Toulouse a déjà accueilli les matchs des Coupes du Monde au stade Ernest Vallon et en 2007 au Stadium.
Quelles sont les prochaines étapes de cette candidature en 2017?
Eh bien, remise du dossier français finalisé auprès des instances internationales du rugby le 1er juin. Le 27 septembre prochain, ce sera la présentation officielle devant le jury. Et enfin, le 15 novembre, le pays organisateur de la Coupe du Monde 2023 sera officiellement annoncé. Croisons les doigts.
Et pour terminer, Green My City, organisé à Toulouse le week-end dernier, les 48 heures de l'agriculture urbaine.
Une bouffée d'oxygène dans un monde de béton, plusieurs ateliers étaient proposés, observer la biodiversité à Albalma, découverte du potentiel et atelier du jardin, la permaculture. 12e nuit de la chouette à Florence, balade découverte de la nature et des espèces protégées en milieu urbain, oui, il y en a, ou encore jardiner sur son balcon. Bref, la métropole était ouverte ce week-end et les ateliers complets avant même le début des festivités.
Alors, dernière information de ce bulletin, les 48 heures de l'agriculture urbaine à Toulouse, et parmi les organisateurs, il y avait un collectif, c'était un collectif constitué entre autres de Green My City et d'Agriville. Christian Ortega, vous qui êtes à la base de cette manifestation avec votre association, qu'est-ce que c'est exactement les 48 heures de l'agriculture urbaine? Qu'est-ce que vous avez proposé?
Alors les 48 heures de l'agriculture urbaine, c'est d'abord un grand rendez-vous avec les citoyens, les citadins et la ville. Et l'objectif que nous avions, c'était déjà de mettre en valeur les nombreuses associations et structures qui œuvrent dans ce domaine-là. Et donc organiser cette rencontre entre ces structures et les citadins et montrer qu'elle est très vivante, très forte. Et essayer ensuite de continuer des actions tout au long de l'année, puisque 48 heures c'est bien, mais l'idée c'est de continuer, et de tirer une sorte de fil vert tout au long de l'année, et reproduire le rendez-vous, idéalement l'an prochain, à la même date.
Olivier Bory, vous êtes intervenu dans le cadre de ces 48 heures de l'agriculture urbaine pour une conférence que vous aviez intitulée « L'agriculture pour une autre manière de fabriquer la ville ». Alors moi, je suis vraiment interpellé par ce terme de fabriquer la ville. C'est pas penser la ville, c'est pas vivre la ville, c'est vraiment fabriquer la ville. Qu'est-ce que ça veut dire, une agriculture pour fabriquer la ville?
Oui, dans ce terme-là, en fait, moi, je suis aménageur. Ce qui m'intéresse, c'est comment on va penser la production de la ville de demain et comment, du coup, on va la planifier, organiser un certain nombre d'actions qui vont permettre, effectivement, de la façonner, de la construire, de la dessiner autrement. Et je crois, en tout cas, que les agricultures urbaines, parce qu'on n'est pas sur une agriculture urbaine, mais des agricultures urbaines, c'est ce que j'ai dit, d'ailleurs, dans l'intervention que j'ai faite lors des 48 heures, il y a vraiment une classification avec une diversité de formes, donc il faut vraiment parler de pluralité d'agriculture, mais je crois qu'en tout cas, on a là des outils qui permettent de construire une autre ville, de rapprocher finalement peut-être la campagne de la ville, de préserver les espaces qui sont encore des espaces de campagne en ville. Et du coup, on a l'opportunité de pouvoir organiser une forme d'alliance, c'est-à-dire de co-construction entre espaces agricoles restants ou périphériques et espaces qui s'artificialisent nécessairement en plus sur l'agglomération toulousaine, qui connaît une pression démographique forte, donc il faut bien urbaniser, mais comment effectivement ville et agriculture se réinventent ensemble et comment on construit finalement un processus dans lequel un processus gagnant-gagnant. Et c'est ça la fabrication. C'est la ville qui ne voit plus les espaces périphériques ou les espaces ouverts encore enclavés comme des espaces à lotir ou des espaces à artificialiser. On n'est pas là sur la question de la réserve foncière. Voilà, je crois que c'est changer de vision pour fabriquer différemment.
On va aller plus loin maintenant. L'agriculture urbaine, donc au cœur de l'actualité métropolitaine récente, grâce à ces 48 heures de l'agriculture urbaine, et donc au cœur de cette émission avec notre sujet du jour, notre focus de la semaine, l'agriculture urbaine, un concept d'avenir pour la métropole toulousaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Et on poursuit ce numéro avec nos invités Christian Ortega et Olivier Bory, membres de l'association Green My City et de l'association Agriville, qui vont donc pour le développement de l'agriculture urbaine dans la métropole toulousaine en ce qui vous concerne, mais aussi ailleurs pour Agriville, parce que c'est vraiment une association nationale. Avant de poursuivre notre échange, je voudrais quand même qu'on la précise, cette notion, ce concept d'agriculture urbaine. Qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce qu'on parle vraiment que de l'espace urbain, mais aussi de l'espace périurbain, Olivier Bory?
Ouais, alors il y a un tas de chercheurs qui ont passé du temps aussi à essayer de définir ce concept-là. Moi, je suis assez séduit par une chercheuse d'AgroParisTech, Christine Aubry, qui a tenté de développer ce concept-là et qui dit que l'agriculture urbaine, elle correspond aux agricultures qui sont localisées en ville, et là on parle d'agriculture intra-urbaine parce que localisée en ville, mais elles correspondent aussi en fait aux agricultures qui sont localisées à la périphérie. Et du coup, elles sont périurbaines. La question de la géographie ne qualifie pas la question de l'urbain. C'est pas parce qu'elles sont à l'extérieur qu'elles sont pas urbaines. Elles sont urbaines à partir du moment où elles entretiennent des liens fonctionnels avec la ville. C'est-à-dire que, y compris des agricultures périurbaines, à partir du moment où le marché est urbain, alors là, elles sont urbaines. Pardon.
Est-ce que ça veut dire, donc, si j'essaye un peu de synthétiser la chose, qu'on peut parler d'agriculture urbaine à partir du moment où la production est destinée à la ville la plus proche?
C'est exactement ça.
Alors, Christian Ortega. Alors,
la production et la consommation, ça c'est clair. Ce qu'il faudrait peut-être rajouter par rapport à ça, bon, on parle d'extraits de campagne qui pénètrent la ville et qui réactivent l'utopie de la ville fertile. On invente un nouvel urbanisme, on fabrique la ville, comme dit Olivier. Il faut aussi souligner le fait que c'est aussi un formidable mouvement d'innovation sociale et de réappropriation de l'espace urbain par les citoyens. Donc ça, c'est une composante très très importante. Le mieux vivre ensemble est quelque chose de fondamental dans ce mouvement.
Oui, cet aspect social et même sociologique, il faut vraiment en parler.
Absolument, puisqu'à l'origine de l'agriculture urbaine, nous avions les jardins familiaux, les jardins partagés. Et là, c'est bien clair, c'est se retrouver ensemble pour cultiver, pour partager et pour prendre du plaisir. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un sujet très sérieux. Nous pensons que c'est un sujet très sérieux, en même temps très joyeux, c'est-à-dire que c'est un sujet un endroit de convivialité, c'est
avec un endroit de vie tout simplement.
Voilà, et c'est dans ce plaisir qu'on construit de nouvelles villes différemment. Et on a le sentiment effectivement qu'en retournant au sol, on est moins hors sol. Le citadin malheureusement assez souvent est un peu hors sol. Et remettre les mains dans la terre, c'est une manière de reprendre conscience de tout un certain nombre de réalités dont on reparlera, hein, sur la consommation d'eau, sur les économies, sur la manière de se nourrir.
Oui, il y a les aspects environnementaux aussi. On parle des aspects sociaux, mais il y a aussi les aspects environnementaux. Alors, vous parliez des citadins. Nous, on a voulu savoir quel degré de connaissance les citadins, les citoyens de la métropole avaient de cette notion d'agriculture urbaine, ce qu'ils en pensaient et s'ils s'y intéressaient. Pour ça, nous avons réalisé un micro-trottoir afin de recueillir leurs témoignages. Vous allez entendre maintenant leurs réponses et réactions aux questions que nous avons posées. Tout d'abord, nous leur avons demandé ce qu'évoquait l'expression agriculture urbaine pour eux.
Faire pousser, comment on appelle ça, les plantations collectives au sein de la ville, par exemple. Effectivement, ouais, ça se fait beaucoup à Paris, à Toulouse, je ne sais pas si c'est très très présent.
Pour moi, ça va évoquer peut-être des jardins.
De l'agriculture qui se fait en ville. Hein.
Selon vous, que peut produire l'agriculture urbaine ?
Je dirais plutôt fruits et légumes, non ?
Ça peut être aussi bien des plantes que des animaux, je suppose.
Je crois que c'est des légumes qu'ils font.
Pensez-vous que les produits issus de l'agriculture urbaine sont de bonne qualité ?
Je dirais peut-être qu'avec la pollution de l'air, je ne sais pas si c'est vraiment top pour la santé avec les particules.
S'il y a évidemment des pesticides, etc., il n'y a pas de raison qu'ils soient de meilleure qualité qu'ailleurs. Et à l'inverse, si c'est biologique, en dépit de l'atmosphère, il n'y a pas de raison qu'ils soient de mauvaise qualité.
Ils ont dû faire certainement quelques petites études. Bon, il y a peut-être un peu plus de pollution atmosphérique, mais je suppose que ça ne doit pas non plus être catastrophique sur la qualité après des légumes.
La ville d'Albi a fait le pari de l'autosuffisance alimentaire grâce à l'agriculture urbaine. Pensez-vous cela possible ?
Alors Albi, je ne sais pas combien ils sont d'habitants, ça me paraît quand même un peu surprenant d'être autosuffisant.
Je ne sais pas si c'est possible, il faut l'espérer. Mais j'y crois pas plus que ça. En tout cas, c'est bien d'avoir ce genre d'objectif.
À partir du moment où il y a les espaces verts qu'il faut, ou du moins des structures adaptées et en quantité suffisante, je ne vois pas de raison que ce soit possible.
Il y a beaucoup de réactions et de choses intéressantes, Mathilde Semblet, dans ce micro-trottoir. Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce que vous avez entendu ? Il y a des choses qui vous ont interpellé vraiment ?
Je crois que c'est assez juste, hein, sur ce qui a été dit, effectivement, sur la nature des productions, des légumes et des fruits, sur l'engouement, le fait que ça se développe peut-être plus ailleurs que chez nous, mais chez nous quand même il y a un certain nombre de jardins partagés. Et puis peut-être un élément sur l'autonomie alimentaire d'Albi, où il faut rappeler que l'autonomie alimentaire de Toulouse est de 3 jours seulement.
C'est-à-dire que si demain, pour une raison ou pour une autre, le ravitaillement de la ville de Toulouse s'arrêtait, on n'aurait que 3 jours d'autonomie alimentaire, c'est vraiment ça ?
C'est ça, oui. Et donc ça pose cette question-là qui n'est pas si simple en termes de réponse, mais comment peut-on bâtir une autonomie plus grande, hein, peut-être pas totale, mais plus grande, en utilisant les terres périurbaines ?
Ouais, je réagis à ça. C'est la question de l'autosuffisance, est-ce qu'elle est possible finalement ? Oui, elle est possible, mais à condition. À condition que.
Donc à condition. Quelles sont les conditions à remplir ?
Me semble-t-il, c'est à condition d'identifier quels sont les territoires fertiles à préserver et d'engager des stratégies foncières qui permettent véritablement de pouvoir avoir des espaces sur lesquels on va cultiver. Sauf qu'on sait bien aussi que ces espaces-là, intra-urbains ou périurbains, sont consommés, sont réduits, sont encerclés, sont enclavés. Et je pense que l'autosuffisance, elle repose pas uniquement sur une forme d'agriculture urbaine, mais qu'elle peut reposer sur une pluralité de formes. Et qu'il faut la penser comme quelque chose de multiple. Donc user peut-être de fermes verticales, user peut-être de jardins collectifs, user peut-être aussi de fermes urbaines plus traditionnelles comme celles qu'on peut avoir à Toulouse au bord de Bio ou des zones maraîchères, notamment sur la zone des 15 sols à Blagnac, etc. Et toutes ces zones périphériques, bien entendu, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et je pense que c'est arriver à réorganiser une complémentarité entre toutes ces formes-là pour que l'autosuffisance soit possible.
Dans les questions qu'on a posées aussi, et on n'a pas encore abordé ça, l'agriculture urbaine, qu'est-ce qu'elle peut produire ? Est-ce qu'elle peut vraiment produire tous les types de produits agricoles ? Est-ce qu'on peut produire tous les types de fruits et légumes ? Est-ce qu'on peut produire des céréales, des légumineuses ? Et de la viande éventuellement ?
Alors la réponse est oui. Après, il faut voir à quelle distance on se situe de la ville pour ça et quels sont les terrains qui sont sollicités. En intra-urbain, on est surtout sur des légumes et des fruits, hein, comme ça a été dit tout à l'heure. Et après, le travail des terres agricoles autour, on peut produire tout.
Et dans l'intra-urbain, quand on dit intra-urbain, c'est vraiment centre-ville de Toulouse, par exemple, on peut produire des choses dans le centre-ville de Toulouse. Et alors, dans ce cas, ça serait où ? Ce sont des jardins ou est-ce que ça peut être aussi sur les toits ?
Alors, aujourd'hui, c'est principalement les jardins partagés. Et on dit qu'un jardin partagé qui est bien entretenu peut fournir aux personnes qui viennent travailler dans ce jardin environ 70% de leurs légumes. Voilà, c'est pour donner une idée, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin partagé.
Alors, les toits, est-ce qu'un jour, les toits d'immeubles, par exemple, c'est des choses qu'on pourra utiliser, qui sont déjà utilisées?
Qui sont déjà utilisées. On peut parler même d'un programme de recherche qui est en cours, en fait, par exemple, avec la clinique Pasteur, qui a installé, depuis 2 ans, un potager sur son toit. Alors, après avoir fait des études de portance, parce que les bâtiments, au départ, n'étaient pas nécessairement prévus pour accueillir, en fait, des potagers sur le toit.
Oui, voilà, évaluer les risques qu'il peut y avoir.
Et en collaboration, donc, avec une joint start-up, d'ailleurs, Macam Garden, qui est spécialisée sur l'accompagnement technique, hein, en fait, à la faisabilité de ces nouvelles manières de produire, en fait. Ils ont installé un potager, donc 200 jardinières sur le toit de la clinique Pasteur, avec cette idée, effectivement, de produire, mais pas que, partant du principe que l'aliment était aussi un outil du soin, notamment de la cancérologie, et un outil aussi du rapprochement social. Christian en parlait tout à l'heure, hein. Ça génère du lien social, ça génère un rapprochement à la campagne, à la terre, etc. Et donc on a là effectivement une expérience qui fonctionne, avec un objectif encore une fois de production qui n'est pas extraordinaire, mais qui leur permet quand même de produire un certain nombre de choses, des fraises avec des légumes référents, hein, ils ont mis en place ces choses-là, mais des fraises et du haricot vert en quantité, en tout cas, c'est 200 kilos de haricot vert par an, c'est pas non plus énorme, 200 ou 250, mais en tout cas, ça diminue d'autant un achat extérieur. Donc on est quand même bénéficiaire économiquement, c'est ce qu'en dit le directeur.
Alors, les conséquences maintenant de l'agriculture urbaine sur l'environnement et sur le réchauffement climatique. Bon, on sait qu'à Toulouse, on a fait des émissions là-dessus, les conséquences du réchauffement climatique. Entre autres, ce sera l'étiage de la Garonne qui sera de moitié d'ici 2050. Donc on va avoir peut-être des problèmes, peut-être pas de ravitaillement en eau, d'alimentation en eau des citoyens, mais en tout cas, pour l'agriculture, pour les jardins, il va y avoir des problèmes. Est-ce que l'agriculture urbaine répond à cette question, en tout cas permet de moins consommer d'eau, par exemple?
Alors, sur cet enjeu environnemental, il faut rappeler effectivement l'enjeu du changement climatique, qui est quand même quelque chose qui est très important, et dire que l'alimentation au sens large sur Toulouse Métropole pèse pour 1/5 de la production de gaz à effet de serre. Alors bien sûr, pas ce qui est produit directement ici, mais des aliments qui sont produits très loin, rapatriés, et donc globalement l'alimentation est quand même un point très important sur lequel on peut travailler pour réduire ces gaz à effet de serre. Ça, c'est la partie atténuation sur le changement climatique. Et après, sur le volet adaptation, comme on l'a vu, eh bien, l'agriculture urbaine peut fournir directement des aliments aux citadins. Mais le citadin qui s'implique dans l'agriculture urbaine aussi, petit à petit, prend conscience de tous ces enjeux, notamment consommer moins d'eau, irriguer un petit peu, et après, dans sa consommation personnelle, va aussi changer de manière. Donc, en fait, à travers une action très concrète qu'est l'agriculture urbaine, on peut sensibiliser et mettre en action fortement les citadins.
Oui, et puis donc des circuits de ravitaillement pour les produits alimentaires plus courts, donc moins de transport, donc a priori aussi moins de gaz à effet de serre.
Tout à fait.
Une question que je me posais, qu'on avait abordée un peu dans le micro-trottoir, c'était quel est l'état des sols dans la métropole toulousaine, notamment dans le centre de Toulouse, parce que est-ce qu'ils sont pas pollués par tout un tas de choses, les industries presque depuis un siècle, la circulation, est-ce qu'on peut cultiver des fruits et légumes sur un sol qui lui-même serait déjà, malheureusement, quelles que soient les méthodes qu'on va utiliser, un petit peu empoisonné, je vais dire le mot.
Alors, c'est peut-être pas très très simple de répondre à cette question. On va dire que globalement, on a quand même des terrains qui sont corrects. Il y a des pollutions ponctuelles. C'est clair, on prend l'exemple de la cartoucherie, qui est une zone qui a été dépolluée. Donc, effectivement, il y a des anciennes activités qui ont pu arriver à des terrains pollués. Après, par rapport à ces activités, il est clair qu'avant de s'engager dans une agriculture urbaine, il est important de faire une analyse des sols pour voir si oui ou non c'est possible, envisageable. Et ensuite, il y a le volet effectivement de la circulation automobile. Et là, je pense que c'est un enjeu du futur. Et ce serait bien de réduire la circulation automobile en ville pour plusieurs raisons, notamment la qualité de l'air. Donc, c'est aussi à travers l'agriculture urbaine et ce besoin-là qu'on pourrait travailler sur ces enjeux.
Est-ce que les élus, nos élus métropolitains, les élus en général, sont attentifs à ce que vous pouvez proposer? Est-ce que vous avez des contacts réguliers avec eux? Comment se passe le dialogue aujourd'hui? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment quand même un vrai intérêt pour ce que propose l'agriculture urbaine?
On ne peut pas dire que Toulouse soit véritablement une métropole très en avance sur cette question-là, par rapport à des métropoles comme Nantes, comme Paris. Ceci dit, on est quand même sur un questionnement qui est en train de s'intensifier. Donc du coup, sur un indicateur, quand les gens commencent à se poser de questions, et des élus aussi, on est quand même sur des indicateurs qui tendent à montrer que c'est peut-être une préoccupation qui va se développer, et sur lesquels, effectivement, les pouvoirs publics vont progressivement arriver à se positionner. Il y a tout un tas, quand même, d'organismes. Alors, je pense au CODEV, par exemple, qui a pour mission d'accompagner la réflexion autour de cette thématique et qui a notamment fait un travail très, très intéressant autour des territoires fertiles dans l'agglomération toulousaine, avec un repérage des terrains à préserver et qui propose, autour de la question du bassin versant, en fait, la construction d'un réseau de terrains qui permettrait le développement de l'agriculture urbaine. Donc voilà, il y a des choses qui se font, il y a des interrogations.
Je voulais rajouter, donc, il y a effectivement une personne, Camille Dumas, du réseau Agriville, qui travaille avec les élus sur la question de la qualité des sols, et aussi que sur Toulouse Métropole, il y a un objectif d'arriver à 10% d'autonomie sur les légumes. Le maraîchage, en sachant qu'il y a un tiers de terres encore disponibles sur l'agglomération.
Donc un vrai potentiel à utiliser. Merci beaucoup à tous les deux pour votre venue et cet échange passionnant. Christian Ortega et Olivier Bory, je le disais au début de cette émission, l'agriculture urbaine est quelque chose à prendre au sérieux. Vous aurez pu constater tout au long de cette discussion que beaucoup d'actions, d'initiatives et de projets existent dans ce domaine. Il a certainement des idées à creuser, à mettre en œuvre pour améliorer notre alimentation, mais aussi notre cadre de vie et préserver notre environnement. On sait que c'est un des enjeux cruciaux du siècle en cours. Pour vous renseigner et connaître tout ce que propose l'association Green My City, je vous invite à consulter leur site internet www.greenmycity.eu. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Jules Martin Savy. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.